Il est 12h30, le journal présenté par Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Dominique.
Bonjour à tous. La science à l'honneur ce samedi partout dans le monde. Ce sont les chercheurs américains qui donnent le ton. Ils se disent menacés par les nouvelles politiques de Donald Trump. Nous entendrons la réaction du mathématicien Yves Meyer qui était l'invité de la matinale de France Culture. Puis nous serons avec Patrick Lemaire du CNRS. Il organise la mobilisation française et souhaite replacer la démarche scientifique au cœur de la société. En Afghanistan, le bilan est lourd après l'attaque d'un commando taliban hier contre une base militaire du nord du pays. Il y a plus de 100 victimes. Nous ferons le point avec Sonia Ghezali, correspondante de RFI pour France Culture. Au Venezuela, l'opposition reste mobilisée contre le président chaviste Nicolas Maduro. Mais après les incidents violents de ces derniers jours, la protestation passera par une marche du silence aujourd'hui. Analyse à suivre d'Ilan Malka. Enfin, musique. À la fin de ce journal, les anciennes usines Renault de l'île Seguin à Boulogne-Billancourt transformées en complexe culturel. Week-end d'inauguration. Nous ferons la visite avec Jean-Didier Urbain. Des milliers de personnes se rassemblent ce samedi à Washington et dans d'autres villes américaines à l'image de la marche des femmes organisée en janvier dernier. C'est la communauté scientifique qui se mobilise aujourd'hui contre l'administration Trump. Administration qui, depuis son arrivée au pouvoir, menace les grands programmes de recherche. Le premier projet de budget du président américain, qui doit encore être approuvé par le Congrès, prévoit des restrictions inédites pour l'Agence américaine de protection de l'environnement et le département de l'énergie. La NASA, également en ligne de mire, et l'Agence océanique et atmosphérique. Yves Meyer est mathématicien, lauréat du prix Abel 2017 pour son rôle dans le développement d'algorithmes utiles en application de la théorie des ondelettes. Il était l'invité de la matinale ce matin sur France Culture et il revient avec Caroline Brouet sur cette mobilisation des scientifiques.
Il y a inquiétude dans l'évolution de la société américaine et en même temps un immense réconfort dans le fait de voir que les gens sont si engagés dans les changements éventuels de leur pays. C'est quelque chose que Tocqueville signalait déjà, que quand il y avait un problème aux États-Unis de l'époque dans un village, les gens n'attendaient pas une décision de l'État, mais se prenaient en main et essayaient de le résoudre par eux-mêmes en faisant une collecte de fonds, en aménageant par eux-mêmes un pont, une route, etc. Je trouve cette idée magnifique. Alors, ce qui est magnifique, c'est que ça soit étendu au monde entier. Je trouve ça absolument super.
Mouvement étendu au monde entier, 600 villes concernées dans le monde, près de 25 en France, dont Nouméa qui a plongé pour la science ce matin dans l'océan Pacifique. Patrick Lemaire, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous faites partie du comité d'organisation français de cette marche pour la science. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Montpellier où vous êtes en train de préparer une photo satellitaire. Elle sera prise à 12h59 et 30 secondes précisément. Il s'agit de promouvoir les programmes d'observation terrestre en ce 22 avril qui est aussi le jour de la Terre.
Voilà, tout à fait. Donc là, il fait grand beau sur Montpellier. Donc on va pouvoir avoir une photo faite par un des satellites français d'observation terrestre, donc un satellite Pléiade, qui, à 900 km d'ici, va faire une photo à haute résolution du mot « science » pour montrer que, oui, l'observation terrestre satellitaire, c'est quelque chose qui contribue beaucoup à la science.
Patrick Lemaire, en quoi la France est concernée par ce qui se passe aux États-Unis ? De quoi est-ce le syndrome ?
Alors, c'est le syndrome, de manière générale, un petit peu partout dans le monde, d'une mauvaise compréhension de la démarche scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance scientifique ? Comment est-ce que nous réussissons patiemment à établir un consensus pour dire, par exemple, qu'il y a un réchauffement climatique et que ce réchauffement climatique est dû à l'action humaine. Donc ce que nous voulons remettre en avant, en France comme ailleurs, c'est ce concept de démarche scientifique, d'expliquer comment travaillent les scientifiques.
Et en France, précisément, d'où vient cette méfiance des Français à l'égard des sciences ?
Alors, cette méfiance des Français, c'est un petit peu général, ce n'est pas qu'en France. Il y a eu un certain nombre peut-être de scandales sanitaires. On entend aussi un certain nombre d'industriels, notamment des lobbies de l'énergie fossile. On entend également peut-être l'industrie du tabac, qui génère du doute. C'est-à-dire qu'il va dire que tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Et c'est vrai, tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Mais sur certains sujets, plus de 90% des scientifiques sont d'accord. Et donc là, c'est ce qu'on appelle un consensus scientifique. Et les citoyens peuvent avoir confiance dans ce consensus scientifique quand il existe.
Comment, aux États-Unis, finalement, c'est le président lui-même qui en arrive à remettre en cause ce consensus scientifique? C'est pas un petit pays, les États-Unis.
Alors, là encore, donc, ce que cela illustre, c'est qu'il est important d'avoir des scientifiques qui travaillent de manière indépendante et librement des groupes de pression, qu'ils soient économiques ou religieux. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un service public de recherche scientifique qui soit dynamique et qui marche bien.
Est-ce qu'on peut dire que la politique menace la science actuellement dans le monde ?
Alors, la politique menace la science lorsqu'elle est un petit peu trop asservie à des intérêts économiques et religieux. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la plus forte menace contre la science de la classe politique, c'est son inculture scientifique. Et on a vraiment un problème, notamment en France, d'avoir une classe politique qui comprend très très mal les enjeux scientifiques, alors que ces enjeux, ils sont vitaux pour l'humanité. En 2100, nous serons presque 12 milliards d'habitants sur Terre. Les ressources de la Terre sont finies et seule la science, couplée à d'autres approches plus locales, nous permettra d'avoir des réponses qui permettront de concilier le développement de l'humanité et la finitude de notre planète.
Comment réconcilier les citoyens, en France en particulier, et les scientifiques ? Cela passe par quoi ? Vous menez une réflexion à ce sujet ?
Donc, effectivement, nous avons commencé une réflexion, et elle est vraiment à l'origine et au cœur de ce mouvement. Nous avons cherché à avoir le plus de soutien venant d'associations environnementales, venant d'associations de médiation scientifique, venant également d'associations de professeurs de l'éducation nationale, pour essayer de comprendre comment est-ce que l'on peut justement faire comprendre la valeur de cette méthode scientifique. Et cela passe en partie par des expériences de sciences participatives. Les citoyens et citoyennes comprendront ce qu'est la science si eux-mêmes peuvent faire des expériences avec les scientifiques et comprendre le processus et comment sont générées ces données.
Merci Patrick Lemaire d'avoir été l'invité du journal de 12h30 de France Culture. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et membre du comité d'organisation français de la Marche pour les sciences, marche qui, à Paris, partira à 14h du Muséum d'Histoire Naturelle. 12h37 sur France Culture. En Afghanistan, un commando lourdement armé a attaqué une base militaire du nord du pays hier soir. Il y aurait plus de 100 morts et blessés selon les autorités. L'attaque, revendiquée par les talibans, est l'une des plus meurtrières qu'a connu le pays ces derniers mois. Elle fait suite à un autre attentat il y a 2 semaines contre l'hôpital militaire de Kaboul. Les précisions de la correspondante de RFI pour France Culture, Sonia Ghezali.
Des hommes lourdement armés, en uniforme, dans des véhicules militaires, arrivent à la base de Balkh en début d'après-midi. C'est ce qu'ont confié les premiers témoins aux médias. Il est alors environ 14h lorsque le commando lance l'assaut. À cet instant, les soldats du 209e corps d'armée d'Afghanistan sont en grande partie en train de prier dans la mosquée de la base ou au réfectoire, finissant leur déjeuner. Et c'est là qu'ils seront pris en tenaille par les assaillants. Une dizaine d'hommes qui tiendront durant près de 5h jusqu'à ce que les forces spéciales afghanes en viennent à bout. 7 insurgés sont abattus, 2 autres sont morts en se faisant exploser. L'un d'entre eux est arrêté, affirment les autorités. En visant la base de Balkh, l'une des plus importantes du pays, les talibans, qui devraient lancer sous peu leur offensive de printemps, en intensifiant les attaques contre des cibles gouvernementales, ont encore montré l'étendue de leurs forces de frappe.
Précision signée Sonia Ghezali, la correspondante de RFI pour France Culture à Kaboul. Le Venezuela s'apprête à vivre une nouvelle journée de manifestation contre le gouvernement dans une ambiance très tendue. On dénombre déjà 20 morts et des centaines d'arrestations depuis le début, ce mois-ci, des protestations. Protestations qui visent à obtenir le départ du président chaviste Nicolas Maduro et des élections anticipées. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour.
Aujourd'hui, l'opposition organise une marche du silence.
Oui, le rassemblement se déroule à la mi-journée. Les manifestants vont se diriger vers les sièges de l'épiscopat vénézuélien dans tout le pays. À travers ce type d'événement, l'opposition veut montrer un visage apaisé, alors que les nuits précédentes ont été marquées par des pillages et violences. C'est l'analyse de René Frégosi, politologue spécialiste du Venezuela.
C'est vraiment pour insister sur la dimension pacifique de l'opposition au Venezuela. L'épiscopat avait essayé d'être l'intermédiaire pour un dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Donc j'imagine que se tourner vers l'épiscopat, c'est un peu un signe pour dire « nous voulons absolument renouer le dialogue ».
Alors, qui peut avoir le dernier mot entre les manifestants et le gouvernement très répressif de Nicolas Maduro? Impossible à dire pour le moment. Selon Paula Vasquez Lezama, sociologue vénézuélienne chargée de recherche au CNRS, pour espérer de véritables avancées, il faudrait que la justice du pays commence aussi à s'en mêler et à affirmer véritablement son indépendance vis-à-vis du pouvoir.
La procureure et les parquets doivent intervenir. Pourquoi ? Parce que hier, pour les pillages des boulangeries et des commerces, hier au quartier del Valle, le président Maduro accuse des députés d'organiser les pillages. Alors là, on commence cette chasse aux sorcières qui vont amener aux députés en prison.
Après ces défilés d'aujourd'hui, le plan d'action de l'opposition est déjà défini pour les jours à venir. Un blocage national des routes aura lieu dès lundi.
Merci Ilan Malka pour votre analyse. Dans l'enquête sur l'attentat déjoué de mardi dernier à Marseille, la garde à vue des deux suspects a été prolongée ce matin au-delà de 96 heures. Décision exceptionnelle justifiée par les investigations en cours et qui pourra aller jusqu'à 144 heures, soit 6 jours. Pour l'instant, les deux hommes âgés de 23 et 29 ans ne parlent pas aux enquêteurs. En Guyane, c'est la sortie de crise. Après plus d'un mois de conflit, le collectif pour que la Guyane décolle, qui pilote le mouvement, a signé un accord à Cayenne hier avec l'État et les élus du département. Accord qui englobe le plan d'urgence immédiat d'1,1 milliard d'euros. Et le gouvernement dit avoir pris acte de la demande des 2,1 milliards supplémentaires. David Riemann, le porte-parole du collectif mobilisé, est globalement satisfait.
Dans l'ensemble, oui, puisque quand le ministre Cazeneuve avait dit que les 2,1 milliards qu'on demandait en plus, c'était irréaliste. Aujourd'hui, ils y sont. Donc, c'est une grande, grande satisfaction. Si on s'était arrêté dès les premières annonces, on ne serait pas à 3 milliards et quelques, on serait à 1,086 milliard. Donc, aujourd'hui, on a cette enveloppe-là. Ça nous permet de relancer un certain nombre de choses en Guyane. Mais ce n'est que le début, puisque il y a beaucoup de choses qui nous attendent, le travail ne fait que commencer. Et donc on restera vigilant et rigoureux par rapport à cela.
Des propos recueillis par Gabriel Pereira. L'Outre-mer qui a donné il y a maintenant 30 minutes le coup d'envoi du premier tour de la présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce sera le cas aussi ces prochaines minutes en Guyane. Elle a l'ambition de devenir l'un des nouveaux pôles culturels de la région parisienne. La scène musicale sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt ouvre ses portes ce week-end. Hier soir, c'était le premier concert dans la grande salle de 6000 places avec Bob Dylan. Et ce soir, c'est l'auditorium qui accueillera plus spécifiquement la musique classique qui sera inaugurée. Jean-Baptiste Urbain, vous nous présentez le nouvel établissement culturel.
Il y a 5 ans, c'était encore une friche, vestige des usines Renault, où des voitures sont sorties des chaînes jusqu'en 1992. Aujourd'hui, si l'île Seguin est toujours en travaux, un centre d'art, un multiplex et des bureaux y verront le jour dans quelques années, sur un quart de sa surface, à la pointe ouest, on découvre un bâtiment massif en béton, 350 mètres de long, construction coiffée d'une sorte d'œuf géant en verre, serti de croisillons de bois, est protégé par une immense voile en panneaux voltaïques. La métaphore est claire et d'ailleurs revendiquée par Jean de Gattine, l'architecte du projet avec le japonais Shigeru Ban.
On a défini finalement l'aval de cette île et l'aval du paquebot. La partie en pointe évoque forcément ce paquebot. Cette voile est aussi une évocation au côté marin de l'ensemble, et cet auditorium est comme flottant au-dessus d'un bassin. Donc c'est vraiment la proue d'un bateau pour nous.
Un bateau avec en son sein deux salles, deux ambiances. D'abord la grande scène type Zénith, 4 à 6 000 places pour des concerts pop, rock, variété. Salle étrennée hier par Bob Dylan. Et en joyau, un auditorium tout en bois où Insula Orchestra et sa chef, Laurence Equilbet, s'installent en résidence. Ce sont eux qui inaugureront le lieu ce soir. Laurence Equilbet, émerveillée par sa nouvelle maison.
L'auditorium est en bois blond avec un plafond fait un petit peu comme un nid d'abeille, en un mélange de bois et de carton. Donc tout est très blond, très doux. On se sent vraiment très zen et l'acoustique est brillante, très favorable pour les musiciens. Vraiment, c'est une très très belle acoustique.
L'acoustique que découvriront donc ce soir les 1150 chanceux de ce concert inaugural de l'auditorium. Pour les autres, la scène musicale, c'est aussi dès demain un jardin haut suspendu de 7000 mètres carrés, accessible à tous, la scène musicale comme lieu de promenade ou l'autre possibilité d'une île.
Oh. Reportage signé Jean-Baptiste Urbain et c'est France Musique qui diffusera en direct ce soir le concert d'inauguration à 20h. C'est également aujourd'hui aussi le Disquaire Day, 7e du nom en France. Depuis 2011, cet événement organisé par les disquaires indépendants a accompagné le retour du vinyle. Il s'en est vendu plus d'1 700 000 l'année dernière, une augmentation de plus de 72% par rapport à 2015. La météo de votre samedi, temps calme et lumineux au sud, des nuages et quelques pluies sur la moitié nord et les températures cet après-midi. Il fera 13 à Lille et Paris, 15 à Strasbourg, 17 à Brest, 18 à Marseille et 24 à Bordeaux.